Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y en a huit nouvelles de longueurs inégales, dont deux en deux parties. Huit histoires qui nous racontent la vie des autres et un peu la nôtre en même temps. On y croise un ancien golden boy aux allures d'amoureux transi, une originale qui enchaîne les métamorphoses, un boxeur qui se bat contre lui-même, une personne handicapée qui sait rendre les autres heureux, ou encore un pêcheur philosophe. Une galerie de personnages attachants réunis par le désir d'aimer, le désir de vivre. De quoi aimer vivre de Fatou Diom est paru chez Albin Michel. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Fatou Diom.
Bonjour.
Votre premier ouvrage publié, c'était il y a 20 ans. 20 ans déjà, c'était La Préférence Nationale. Et là aussi, c'était un recueil de nouvelles. Pourquoi 20 ans après, avez-vous eu envie de revenir à ce genre littéraire?
Et je pense que je commence à être nostalgique. C'était mon premier livre, donc c'est un signe de fidélité, le premier genre que j'ai publié. Mais c'est aussi le plaisir toujours renouvelé d'écrire des nouvelles pour le changement, la brièveté. Donc voilà, c'est une escale encore.
C'est une contrainte, justement, cette brièveté?
Non, c'est plutôt un plaisir parce que comme on change de thématique plus rapidement, le roman, c'est une navigation au long cours, je dirais. Alors que les nouvelles, c'est vraiment, on multiplie les escales. Et donc, on varie les personnages et il y a des histoires qui se... On sort très vite d'un cadre pour rentrer dans un nouvel univers et c'est ça qui me plaît dans les nouvelles.
Et en même temps, il y a une sorte de fil rouge quand même que l'on peut deviner, alors qui est peut-être pas évident comme ça à première vue, mais en réfléchissant, en prenant un petit peu de recul, nous lecteurs, par rapport à chacune des histoires, on peut voir que vous n'avez pas lâché ces histoires au hasard.
Non, il y a un lien. Le lien, c'est justement de quoi aimer vivre. Chacun de ces personnages cherche de quoi aimer vivre. Pour certains, ils cherchent la subsistance elle-même, donc gagner sa vie, de quoi vivre, avoir quelque chose dans l'assiette. Mais avoir de quoi vivre ne suffit pas. Il faut aussi les sentiments, la quiétude, la tranquillité de l'esprit. Donc, ils sont tous agités pour quelque chose, soit le manque de quelqu'un ou de quelque chose.
Donc, des personnages profondément humains, des gens ordinaires, des gens qu'on peut croiser dans la rue ou dans son village, installés un peu comme tout le monde dans leur vie quotidienne, dans parfois leurs difficultés, évidemment. Est-ce que chacune et chacun d'entre nous, Fatou Diom, même sans le savoir, a en elle ou en lui quelque chose de romanesque?
Oui, je pense que nos histoires, finalement, nous racontent des choses que nous connaissons tous. Finalement, le livre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la manière de raconter, le style qu'on va adopter, la structure narrative elle-même. C'est ça qui peut être étonnant. Mais sinon, les réalités de la vie, je pense que depuis des siècles, nous racontons la même chose. L'amour, les manques, la tristesse, la joie, les rêves, les révoltes.
Donc ça veut dire que de n'importe quel matériau littéraire, on peut faire un joyau?
Ah oui, mais je vous ai fait une histoire de la robe d'une grande diva que nous connaissons ici et que nous aimons beaucoup en France ici et ailleurs dans le monde. Et la nostalgie de cette robe-là raconte quelque chose de nos propres sentiments humains. Pour moi, c'est une métonymie. Cette robe a hérité de nous.
Alors, on va écouter tout à l'heure cette chanson. Je voudrais qu'on reste justement sur ces vrais gens dont vous nous racontez les destins. Vous les observez, vous les écoutez. C'est en fait en s'ouvrant aux autres que vous viennent ces histoires-là, Fatou Diom?
Oui, et parfois, vous savez, ce sont des rencontres où parfois je n'ai même pas l'idée d'en faire un texte. Mais parfois, une phrase vous marque, un regard, une attention, un sourire. Et puis, un jour, vous y pensez. Donc, le souvenir ramène des détails encore plus touchants. Et là, je me dis, je vais en faire un texte. Parfois, c'est une manière de rendre hommage aussi.
Oui, parce que parfois, vous n'êtes pas très très loin quand même, Fatou Diom. C'est bien vous, la dame qui parle du Sénégal et de l'Afrique à Andy, dans ce restaurant de Strasbourg. C'est la première nouvelle du recueil, c'est vous.
Vous êtes sûr, il n'y a pas une Sénégalaise qui me suit, là?
Ah bon, on ne sait jamais. Il y en a d'autres, certainement, des Sénégalaises à Strasbourg. Mais des gens qui connaissent Andy, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça.
Non, je pense que là, c'est vraiment la fille du Sun Saloum qui navigue jusque sur les rives Renan là-bas et qui croise Andy. Donc voilà, c'est un pélican du Sun Saloum qui rencontre une cigogne d'Alsace.
Oui, bon, on est dans l'autofiction, là, dans l'imagination pure ou dans le réel?
C'était plutôt un hommage à Andy, qui a réellement existé. Donc, et c'est quelqu'un qui occupe une place comme ça dans votre vie, une amitié, une chaleur humaine. Et vraiment, il occupe cette place parce que justement, il n'en revendique aucune. Mais il est juste là. Et puis un jour, cet être-là n'est plus là. Et il y a un vide et on se découvre vraiment privé de quelque chose de tellement important qu'on n'arrête pas d'y penser. Plus on essaie de l'oublier, plus on y pense. Et c'était réellement le cas. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, Andy, c'est un grand seigneur. Il était très important. C'est un grand ami. Eh bien, je vais lui rendre hommage. Donc, cette nouvelle, c'est une révérence à Andy.
Oui, alors Andy, il boite, hein, il a été frappé par la polio, il a un visage paisible, un visage d'une grande douceur. Mmh. Il parle aux gens comme on caresse les grands brûlés. C'est extraordinaire, cette expression. Il y a une grande élégance, il y a une grande politesse. On a tous envie d'avoir un Andy à soi, en quelque sorte.
Oui, là, ça m'émeut parce que c'est, je n'ai pas trouvé une métaphore plus parlante, entre guillemets, que celle-là. C'est magnifique. Quelqu'un, quand il vous croisait, d'abord, je disais dans le texte aussi, il a le regard d'abord furtif avant de s'apesantir. Et après le sourire et puis une plaisanterie, c'était sa manière de sonder l'humeur du jour. Et cette délicatesse-là fait que vous ne pouvez qu'être ému parce que lui-même, il a une vie qui n'est pas facile. Et cet homme-là qui est perclus de douleur, qui boite, qui n'arrive pas à tenir sa tête comme il faut, qui a des problèmes de nerfs, c'est cet homme-là qui a les genoux rabougris de partout, et bien les malabars qui peuvent courir comme des champions, comme des athlètes, peuvent pleurer sur ses genoux. Et c'est lui qui apprend aux valides à tenir debout.
Oui, alors ça aurait pu mal se passer, parce qu'un jour vous découvrez quand même qu'il vous regarde par la fenêtre. Bon, alors au début ça vous met un petit peu mal à l'aise quand même, vous lui expliquez que ça ne se fait pas.
Oui.
Vous mettez des stores aux fenêtres, mais vous en gardez quand même toujours une ouverte.
Oui, et quand je le traite de voyeur, il dit « pas de gros mots, ma chérie ».
Voilà.
Donc voilà, le hasard a bien voulu te placer sous ma garde. Donc il se voit comme un ange gardien. C'est aussi cette bienveillance qu'il avait, cette gentillesse qu'il avait. Moi, l'Africaine venue du sud là-bas, et lui, l'Alsacien, qui me regarde là en disant « elle est sous ma protection ». Cette fille-là, je la garde, je suis son ange gardien. Ça m'émeut. Et donc, au début, quand quelqu'un vous observe comme ça, et puis une fille, un monsieur qui vous observe, même s'il est handicapé, on trouve ça quand même très, très louche. Et alors, on a peur.
Voilà. Et pourtant, quelque chose vous dit qu'il faut laisser cette fenêtre ouverte.
Oui, une fenêtre ouverte pour les anges. Parce que lui, c'est un ange, c'est un homme qui est pur, c'est un cœur propre. C'est que quand je l'ai accusé d'ailleurs, quand je lui ai dit mais, que c'était lui qui épiait chez moi, et bien il a tout de suite confessé. Il a dit, mais bien sûr, c'est moi. Mais je m'ennuie quand tu n'es pas là parce que je regarde les lumières chez toi. Et donc, c'est une présence humaine qui apprécie ma présence à moi. Et je pense qu'on existe à partir du moment où les autres aussi prennent acte de notre présence. Donc, il y a pire que le fait d'avoir un voyeur en face de nous, c'est d'être invisible.
Ouais, et quand Andy meurt, c'est un grand vide qui s'ouvre. Nous sommes à la page 52.
Depuis la mort d'Andy, je ne cesse de scruter sa fenêtre, espérant le moment où je n'y penserai plus. Chaque fois, le même vide menaçant et le même vague à l'âme. Toujours, les souvenirs s'imposent et la réflexion creuse en moi, un trou que rien ne semble vouloir combler. Excavation. Un jour, on se découvre vide de ce que l'on ignorait porter en soi. Une part de l'autre, une part de vie qui s'ajoutait à la nôtre et nous fortifiait. L'absence se mesure à la fragilité qu'elle suscite en nous. Tant de gens traversent nos vies, composent notre quotidien, sans qu'une expression précise puisse les rattacher à nous. On apprend leur décès par hasard, car nul parmi les leurs, au sens légal du terme, ne sait combien ils comptaient pour nous. Ainsi, aux yeux de la société, nous avons tous une famille, in praesentia, et une autre, in absentia. Cette dernière ne reçoit pas de faire part, et bien qu'elle souffre du même deuil, sa complainte n'est pas reconnue légitime. Année après année, la liste de nos deuils inconnus s'allonge. À qui peut-on en vouloir ? Il restera toujours impossible aux proches de connaître et de réunir, au moment de l'ultime adieu, l'ensemble des individualités qui ont croisé le sillage d'un être. La famille d'Andy ignore tout de moi, comme j'ignore tout d'elle. Pourtant, leur perte est également la mienne. Comme les morts anonymes, il existe des endeuillés anonymes. Les premiers sont enterrés au bout de leur tragédie, les seconds continuent à vivre avec la leur et se souviennent. Le souvenir est à la fois leur supplice et leur réconfort.
Et la conclusion, à quelques lignes plus loin, Fatoudium, une brouette cassée transportant un cœur humain est plus précieuse qu'une Rolls-Royce vide. Il faut toujours laisser une fenêtre ouverte pour les anges. En fait, ce livre de nouvelles, Fatoudium, ces petits récits, ce sont de petits contes réalistes, quoi, qui donnent toujours une sorte de, pas forcément de morale, mais enfin une sorte de philosophie sur la vie.
Un constat. Finalement, la philosophie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on constate un jour, on a appris quelque chose de cette situation-là, et puis on garde cela comme une leçon. Et Andy m'a laissé cette leçon-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se méfier tout de suite de l'autre, peut-être qu'il nous veut simplement du bien. Et puis, l'importance d'un être humain. Aucune présence n'est anodine. Et le problème, c'est que quand on connaît des gens comme ça dans nos grandes villes, nos métropoles, parfois des gens meurent. Et puis, nous portons ces deuils-là. Et leur famille ne peut pas le savoir. Donc, parfois, on n'est pas averti. On lit ça dans la presse, on entend ça comme ça au hasard. Je trouve que ce sont des deuils violents, parce que ce sont des êtres chers.
On est trop tenté aujourd'hui, Fatoudium, dans la vie citadine que vous connaissez, de fermer nos fenêtres.
Oui, je suis la première à fermer mes fenêtres. Surtout pour les filles. En plus, on a la... Surtout en ville, pour les filles, on a une... Déjà, il y a la pudeur. Il y a la pudeur vraiment. Et aussi, il y a la peur que l'autre observe, sache à quel point je suis vulnérable. Et cette vulnérabilité-là que nous identifions chez nous, eh bien, nous cessons d'avoir peur à partir du moment où nous la reconnaissons chez l'autre. Je pense qu'Andy m'a adoptée comme je l'ai adoptée. À un moment donné, on a partagé des joies, des tristesses, des sourires. Parfois, un regard suffit pour prendre la température. Et donc, cette bonté-là de l'être humain, si je m'étais méfiée, si j'avais pris la fuite, ou lui, s'il n'avait pas prêté attention, on ne se serait même pas croisés. Donc, on aurait loupé une belle amitié. Et la voix de John Seck.
Absolument, Fatoudium, vous avez tout de suite reconnu évidemment cette grande voix du Sénégal qui s'est éteinte il y a quelques semaines à l'âge de 66 ans. C'est important pour vous les voix.
Oui, justement. C'est très important. Et celle-ci, j'ai grandi avec la voix de John Seck. Et justement, on parlait du départ de Andy. Mais vous voyez, les artistes, quand les artistes partent, nous sommes également endeuillés. Mais parce que toutes les personnes qui ont aimé leur talent, qui ont apprécié leur création, toutes ces personnes ont une souffrance partagée. Mais vous voyez, on n'est pas dans la famille directe. Pourtant, on a été endeuillés d'avoir perdu John Seck. Donc voilà, ça m'émeut parce que vraiment, c'est exactement ce dont nous parlons. Combien d'artistes nous pleurons? Leonard Cohen, David Bowie, donc la liste est énorme. Et à chaque fois, ce sont les nôtres qui partent.
Beaucoup de personnages dans ce recueil de nouvelles de Quoi aimer vivre que vous publiez chez Albin Michel Fatoudium. Il y a par exemple ce boxeur, ce mastodonte attablé dans un restaurant qui affiche un air ronchon, qui ne supporte pas de voir les autres heureux parce que lui-même porte le poids de ce qu'il a subi, de ce qu'il a fait. C'est un personnage plein de plaies et de bosses au sens figuré et au sens propre du terme. Un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qu'on met du temps à découvrir au fil de Veli. Il faut toujours croire en l'être humain, Fatoudium, lui donner une seconde chance.
Alors moi, j'y crois parce que je pense que nous n'avons que cela pour nous sauver. De toutes les situations, il n'y a pas... L'être humain n'a pas mieux à atteindre qu'une main tendue, un regard, un sourire... Toutes nos inquiétudes dans la vie, c'est toujours un humain qui nous en console. Et c'est pour ça que je dis mortel l'amour, mais lui seul sauve. Bien sûr qu'on en souffre de l'amour. Combien de fois des tragédies adviennent à cause de l'amour? Mais combien de fois les gens s'en sortent carrément des ténèbres ou du gouffre, exactement, parce qu'ils ont croisé l'amour d'un autre humain au bon moment.
Alors on croise aussi Octave, hein, cet homme bien mis, très élégant, qui n'ose pas déclarer sa flamme à Candice, la boulangère qu'il regarde comme s'il regardait la Joconde, c'est l'expression que vous utilisez, très imagée, mais on comprend évidemment tout de suite, on imagine la scène. Vous avez une écriture extrêmement visuelle d'ailleurs, hein, Fatoudium.
Peut-être que j'ai une frustration de la peinture.
Ah, vous auriez pu être peintre ou dessinatrice.
Je ne sais pas peindre justement, malheureusement. Et alors j'ai les images dans ma tête, donc j'essaie de décrire, mais c'est comme pour la musique. Donc, parfois, je me fais des mélodies comme ça au dictaphone, mais je ne sais pas composer. Donc, voilà. Alors, j'écris et je récite pour avoir la tonalité, le tempo. Et donc, si je trouve mon tempo, je trouve le reste du texte.
Ouais, mais c'est vrai que là, Octave, on a vraiment l'impression d'être dans sa salle de bain avec lui quand il se pomponne, quand oui. Il répète devant la glace sa déclaration, mais il n'ose pas, il procrastine, il remet au lendemain. Mmh. Alors, je laisse le lecteur découvrir s'il franchira ou non le pas et comment se terminera votre nouvelle. Il y a Touti aussi qui se fait tour à tour éthiopienne, groenlandaise, antillaise, de par ses tenues, son maquillage, de par la musique qu'elle écoute, qu'on prend pour une folle, jusqu'à ce qu'on apprenne pourquoi elle se comporte ainsi. Mmh. C'est une magnifique déclaration. Découverte. Là aussi, je laisse les auditeurs lire le livre et découvrir. Justement, Fatoudium, on dit souvent que dans les nouvelles, le plus important, c'est la chute. Le plus important, c'est la fin. Vous êtes d'accord?
Ah, mais je suis d'accord parce que c'est... Je pense qu'il faut déjà penser à la chute quand on commence la nouvelle elle-même. Donc moi, j'aime bien les constructions circulaires.
Donc vous commencez par écrire les derniers mots de la nouvelle avant d'en écrire le début?
Non, j'y pense. Je pense déjà où je veux mener. Il y a une tension. C'est comme pour le film, comme pour au cinéma, on attend le climax. Donc, à un moment donné, il faut un dénouement, mais il faut que ce soit quelque chose vraiment de fort, de ressenti qui tienne vraiment au cœur. Vraiment, j'y tiens ça à la chute. Donc, quand je commence la nouvelle, j'entrevois déjà où je vais retomber sur mes pattes, on va dire.
Mais parfois, la fin, elle est ouverte, elle n'est pas forcément fermée.
Oui, et je propose une fin. Et alors, j'aime bien l'idée que mes lecteurs fassent un effort de création. Pour moi, il y a un côté collectif dans l'écriture et la lecture. Il y a une complémentarité. C'est-à-dire que moi, je propose un sillage. Eh ben, mes lecteurs, ils peuvent avoir envie de regarder l'autre rivage. Moi, je regarde à gauche, je regarde à droite. Et après, il y a parfois deux fins possibles. Je l'ai déjà fait dans un roman, dans Celles qui attendent. J'ai proposé deux fins possibles. Et selon la sensibilité des gens, ils me disaient toujours, mais j'ai choisi telle fin. Ça me semble plus plausible. Je préfère telle fin. Et pour les nouvelles, là, on est plus radical. Parce qu'on doit absolument arriver à une chute. Donc, ça me fait penser au sport de combat comme le kung-fu. C'est vraiment un coup, il faut savoir directement où ça va aller.
Payer, balayer, oublier, je me mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Non, je ne regrette rien. Edith Piaf dans VMDN sur RFI. Indémodable,
Edith
Piaf,
c'est une reine. C'est une reine toujours actuelle parce qu'elle donne du courage. Tout ce qu'elle dit dans la chanson, ce n'est pas évident à faire. Mais le jour où on réussit à le faire, c'est incroyable. C'est une illumination, c'est un horizon qui s'ouvre. C'est le cœur qui s'allège. Je trouve que c'est une reine. Cette dame, c'est une, voilà, c'est une chanson qui est bravache. Et vous voyez, nouvelle qui est consacrée à ces chansons obéit au rythme. L'écriture de toute la nouvelle obéit à la mélodie, au tempo de cette chanson.
Voilà, Indémodable, hein, c'est le titre de cette nouvelle que vous consacrez non pas à Edith Piaf, mais à sa petite robe noire, hein, que vous faites parler pour nous au fond d'un placard qui sent la naphtaline.
Oui.
Comment vous est venue l'idée de cette personnification?
Je pense qu'il y a un reste de quête là dans ma tête. Et puis là, il faut rendre hommage à Stéphanie Chevrier, ma merveilleuse éditrice qui m'avait édité pour Ketela à l'époque chez Flammarion. Elle a parfois des idées comme ça. Un jour, elle faisait un texte, une collection de textes sur la mode. Et je lui dis, mais tu sais que je suis pas branchée, moi. Je suis enfermée avec mon ordinateur à écrire et je ne sais pas écrire sur commande. Et il me dit, mais écris ce que tu veux. Et je me suis dit, mais au lieu d'être à la mode, et si j'écrivais sur une espèce de millésime de mode? Et quelque chose d'imprégné de l'humain, quelque chose qui a gardé une fidélité à son propriétaire. Et donc cette robe-là, qu'on traite toujours de petite robe...
Oui, ce qui l'agace beaucoup. Hein.
Et ce qui l'énerve, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'exprime.
Voilà.
Parce que quand même, l'épopée de Piaf n'aurait jamais pu avoir lieu sans ses robes, sa robe noire. Et donc elle dit, comment on dit d'elle, la grande. Et moi qui ai partagé son épopée, on parle de moi en disant la petite robe. Mais eux, les gens qui disent ça, ont-ils été assez grands pour partager les grands et beaux moments de Piaf, par exemple? Et donc voilà, pour moi, ce sont ces objets-là qui sont précieux quand un humain disparaît. Donc c'est pas les comptes bancaires, c'est pas les Rolls Royce, c'est pas les diamants. C'est vraiment quelque chose qui garde le parfum, le contact, la sueur de Piaf. Et la petite robe se demande, mais là où Piaf elle est, n'a-t-elle donc plus besoin d'une robe?
Vous avez, vous aussi, une petite robe noire, faites au
dire. Ah, j'en ai toujours. Mais la mienne, elle est vraiment petite, puisque je suis petite.
Voilà, presque toutes les femmes ont une petite robe noire.
Et oui, parce
c'est
que
c'est... étonnant de voir le caractère mythique de ce Venport.
Oui.
Et en même temps, très quotidien.
Et oui, mais regardez Barbara, la grande Barbara, et puis la diva Piaf. Toutes ces dames-là avaient ces robes, parce que c'est classe, c'est précieux, tout en étant très simple, c'est sobre, en étant tout à fait élégant. Donc, pour moi, c'est quelque chose à la fois neutre. Une robe noire, on peut l'amener partout. On peut aller faire le marché avec, mais on peut aller en dîner, une soirée, on peut aller partout avec. On peut aller à, je sais pas, un musée, on peut aller au cinéma, mais on peut aussi aller en deuil avec, c'est terrible. Mais aussi, on peut la porter pour aller à des dîners mondains. Donc, la robe noire, c'est une élégance qui sied à la femme en toutes circonstances.
La robe noire, indémodable. C'est le titre de cette nouvelle. La littérature, c'est indémodable aussi, Fatou Diop?
Ah oui, indémodable. Parce que vous voyez, Senghor a fait ce qu'il a pu, et puis Ursenar a fait ce qu'elle a pu. Et John Steinbeck et Hemingway ont fait tout ce qu'ils pouvaient après Shakespeare et Voltaire. Et n'empêche que je trouve encore des choses à redire. Donc c'est indémodable, parce que l'humain aura toujours besoin d'exprimer ses doutes, et ses sentiments et ses rêves.
Et pourtant, certains mots se démodent. Hein. Il y en a même qui disparaissent il y a quelques jours. On va faire un petit jeu, Fatoudium. Oui. Il y a quelques jours, sur un réseau social bien connu, mes yeux sont tombés sur une liste de mots français en voie de disparition. Parce qu'on ne les emploierait plus. Alors, j'en ai choisi quelques-uns. J'en ai fait une phrase. Je n'ai pas, évidemment, votre talent d'écrivain. On l'a enregistrée, cette phrase. On va l'écouter. Et vous allez me dire si vous comprenez et ce que vous en pensez.
Le grimaud baie jaune, pétune et clabaude avec un tire-laine.
Alors, Fatoudium.
Alors, le clabaudage, déjà, les clabauderies, c'est du bavardage, parfois, les commères.
Oui. Le grimaud.
Le grimaud. Alors là, je donne ma langue au chat parce que moi, j'allais traduire grumeaux, comme les grumeaux de farine.
Non, alors c'est moins poétique que ça. Le grimaud, G-R-I-M-A-U-D.
Le grimaud. De grimoire ?
Non plus.
Ah, ben d'où non. Jésus ?
Alors, c'est un élève ignorant. Béjaune. Béjaune. Vous connaissez l'adjectif béjaune ? Moi, je connaissais pas du tout.
Non.
Voilà. Béjaune, ça veut dire ignorant. Pétuné, ça, je pense que vous savez.
Pétuné. Ça viendrait de pétunia ?
Non, ça n'a rien à voir avec les fleurs.
Pétuné ?
Non, mais pétuné, c'est fumé.
Ah, pétuné ?
C'est clopé.
Ah, c'est clopé ?
Ah, vous voyez, c'est effectivement des mots qui sont complètement... Mais c'était le tire-laine. Alors, le tire-laine, ça, je crois que je l'ai lu chez Victor Hugo il y a très longtemps.
Non, c'est pas...
Il y a plus de métaphores que ça. Un tire-laine, c'est un voleur.
Le tire-laine ?
C'est un voleur, voilà.
C'est donc, pas un dépouilleur.
Alors, je suis rassuré parce que, au moins, vous... voilà, donc le grimaud, baie jaune, pétune et clabaude avec un tire-laine, ça donne ça. En français,
l'élève, ignorant et naïf, fume et bavarde avec un voleur.
Ah, voilà. Bavarde.
Bon, on comprend mieux. C'est peut-être moins joli, c'est peut-être moins fleuri aussi.
Oui, mais ces mots-là, ils étaient dans la valise secrète de Fénelon ou de Chateaubriand.
Voilà, ça dépend, on viendra vérifier. Mais au-delà du jeu, il faut les sauver, ces mots qui disparaissent. Il faut continuer malgré tout à les employer ou il faut au contraire les laisser mourir de leur belle mort et passer à un langage contemporain. Vous en pensez quoi vous ?
Alors moi, de temps en temps, j'aime bien exhumer et mettre des mots, par exemple, rapace que personne n'utilise, on l'utilise très rarement. Donc j'aime bien aller dans le 18e siècle et sortir des mots. Mais souvent pour leur élégance et leur côté précieux.
Des mots du dimanche, quoi. On a l'impression que les mots s'habillent pour une grande occasion et sortent comme ça de la naphtaline, comme le placard de la petite robe noire.
De la petite robe. Et donc, c'est le côté Chateaubriand, pour faire des guirlandes autour de certaines phrases, parfois juste pour le plaisir de jouer. Et donc, je pense que les mots qui disparaissent seront toujours remplacés par d'autres. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Je pense que nous sommes aussi créatifs que Fénelon et Chateaubriand. Il faut oser l'espérer.
La question de la langue, Fatoudium, vous l'abordez dans une nouvelle qui s'appelle « Le bleu de la royale », histoire de Samara, une migrante, ou plutôt une survivante, le terme semble plus juste, qui a traversé la Méditerranée, de Libye à Lampedusa, et qui vit à présent en France, dans l'attente de son statut de réfugié. Elle comprend pas bien le français, et ça amplifie d'ailleurs sa tension, son stress, son angoisse. Vous écrivez cette phrase très forte, « Vivre dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, c'est un exil dans l'exil ».
Oui, c'est une claustration. Parce que le langage contourne votre cerveau et il vous laisse avec l'incompréhension. L'incompréhension amplifie la peur, le doute, l'inquiétude, le manque de confiance vient de la peur. Et quand on est dans un pays où on ne comprend pas la langue, on est tout de suite isolé dans l'exil lui-même. C'est être dans un autre pays à l'intérieur du même pays. Je pense que c'est ça la langue, c'est un pont. Donc, si on n'arrive pas à franchir ce pont, on est à côté.
Et Samara attend. Elle attend des nouvelles du berger qui l'a accueilli dans cette vallée de la Roya, dans le sud de la France. Son berger qui pourrait être condamné pour l'avoir aidé. Hein, le fameux article L622 sur l'aide à l'entrée au séjour en France des clandestins. Elle ne comprend pas qu'on puisse être condamné pour avoir fait preuve d'humanité.
C'est le 11e commandant, le 11e commandement. Donc, tu n'aideras point ton prochain. Et oui, parce que normalement, c'est la non-assistance à personne en danger qui a été punie par la loi. Donc maintenant, si on punit quelqu'un parce qu'il a porté assistance, il faut qu'on me dise quelles sont les vertus que nous sommes supposés défendre dans ce cas-là. Donc, alors l'indifférence serait une forme de vertu nouvelle. Laisser mourir sans aider, ce serait le nouveau comportement idéal. Et heureusement, Cédric Héroux a été
relaxé.
Il est relaxé, il est libre. Donc, et il a dit une jolie phrase d'ailleurs. Il a dit « La solidarité ne sera jamais un délit ». Et quel soulagement! Donc, je pense qu'on était nombreux à travers la France et puis peut-être toute l'Europe à écouter ce verdict-là pour enfin respirer et nous dire, mais eh oui, on aura toujours le droit d'aider son prochain. Lui, il l'a fait. Et je trouve que lui, il défend l'honneur de la France et ce serait absolument inimaginable de le condamner.
On sent à ce sujet une vraie indignation dans vos lignes, mais l'indignation la plus forte, c'est celle qui habite un autre personnage, c'est celle qui habite Fahali, un pêcheur,
oui,
qui n'arrive plus à ramener assez de poissons pour faire vivre sa famille. Nouvel extrait, nous sommes à la page 211.
Une barque, un filet, un peu de courage, tu parles. Vieux loup de mer, tu n'en croirais pas tes oreilles si tu revenais. Actuellement, malgré de puissantes machines et des journées entières à braver le gros marin, la pêche artisanale ne garantit plus de quoi vivre dignement. Et le sort s'acharne, le climat se détraque. Avec la sécheresse et les invasions acridiennes, les champs ne donnent plus assez de mille. La salinisation sème la désolation dans nos rizières. Nos greniers se vident, les épiceries débordent. Riz thaïlandais, blé français, maïs argentin, lentilles canadiennes, huile brésilienne, oignons hollandais, conserve de tomates italiennes, moutarde allemande, lait en poudre irlandais, sucre luxembourgeois, chocolat belge, sodas américains. Bientôt, plus de couscous de mille, ligne marmite du pêcheur. Vêtus de synthétiques tissus chinois parce que privés de la qualité de notre coton, nos femmes mixent dans le même plat des marchandises des cinq continents. Encore faut-il pouvoir se les payer. Seuls les Suisses font des plus-values avec l'or de Sabodala, qui nous achètent au tarif du gruyère fribourgeois. Et qui sait où brillent les diamants du Congo ? Nos femmes n'en portent pas. Est-ce donc cela la mondialisation ? Gorgée de richesses, la terre africaine fourmille de pauvres. Comment peut-on servir de réserve aux autres et avoir la gamelle de ses enfants vides ? Quelle logique à cet engrenage mortel, si ce n'est la prédation ? Carton rouge. Le sang des migrants en a peint aux dimensions de la Méditerranée. Carton rouge aux requins. Des requins, il y en a plus hors de l'eau. À quoi servent l'ONU et l'OMC ? Utiles ? Elles auraient réduit le fardeau de l'OIM en fétu de paille. Arbitre du match du monde, se disent-elles. Mais quel zinique arbitre qui laisse les loups dévorer à loisir les agneaux du Seigneur, puisqu'il faut justice, même à l'égard des injustes. Avant d'accuser les rusés renards extérieurs qui se partagent le fromage africain, blâmons d'abord leurs malléables complices locaux, ces leaders low-cost, sans éthique autre que leur rapacité. Oui, sadiques sont ces faux bergers qui privent les enfants d'Afrique du lait de leur mère. Carton rouge à tout dirigeant africain correspondant à ce vil profil. Quant aux autres, même s'ils se dévouent en toute sincérité, non seulement leur silence les déshonore, mais leur résignation est le premier capital que fructifient les voyous du capitalisme baroudeur. Carton rouge aux cyniques comme aux soumis, qui préfèrent l'illusoire paix de leur sieste au combat pour l'égale dignité des humains. Impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains, alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales à plein régime. Qui trouve cela juste tient sa morale des amibes. Impossible de remédier aux coupures d'eau en Afrique, mais des firmes s'approprient l'eau de nos sources, la mettent en bouteille pour ensuite nous la vendre. Nos eaux paieront. Vu l'espérance de vie en Afrique, nos vies servent d'engrais au monde des pillards. Qu'adviendra-t-il de mes gamins ? Pendant combien de temps encore les cadavres des enfants spoliés d'Afrique serviront-ils de festin aux requins ?
Quelle véhémence hein, et quel réquisitoire. Alors c'est un personnage, Fahali, Fatou Diom, mais je suis obligé de vous poser la question pour vous aussi. Tous coupables ?
Non, pas tous coupables, mais ceux qui sont coupables le sont vraiment et totalement, et ils le savent, et c'est ça qui est pire.
Et donc carton rouge.
Eh oui, carton rouge, parce que quand un coupable sait qu'il est coupable et il ne fait rien contre, il est cynique. Et ça, c'est inacceptable. Donc on parle des jeunes qui viennent ici. Vous savez, je viens d'une région où on vivait de la pêche. Quand j'étais petite, dans la barque de mon grand-père, on ramenait du poisson, mais des quantités de poissons d'une qualité incroyable. On ne manquait de rien. Et vous savez, certaines espèces de poissons, les cadets d'aujourd'hui ne les connaissent même plus, parce qu'on ne les trouve plus. Donc le mérou, les espadons, tout ça, il faut les acheter ici chez Picard, hein, pas les acheter sur le marché. Je mange des dorades de Dakar en les achetant ici en France, plutôt qu'au marché à Dakar, parce qu'on ne les trouve plus et c'est hors de prix. Donc ce pêcheur-là n'a plus rien, il a des enfants, il manque de quoi vivre. Et après on s'étonne que les gens-là se déplacent pour suivre les chalutiers européens qui ratissent les côtes sénégalaises. Et c'est pas que le Sénégal, c'est tous les pays pauvres.
Et et le son du Jung Jung dans VMDN sur RFI pour saluer notre invité Fatou Diome qui vient nous voir à l'occasion de la sortie de son recueil de nouvelles De quoi aimer vivre aux éditions Albin Michel. Et le tambour serreur, Fatou Diome, vous le faites résonner en harmonie avec le souvenir de ce vieux pêcheur que vous évoquiez à l'instant, ce vieux pêcheur et son élégante dame qui vous ont donné justement de quoi aimer vivre. Ils sont très présents dans vos livres, hein, ces grands-parents qui vous ont élevé sur l'île de Niodior. Votre grand-père, c'est donc le vieil homme sur la barque dont vous évoquez le souvenir dans la dernière nouvelle du livre, ce pêcheur de Niodior qui emmenait sa petite fille à la pêche dans le delta du Saloum en pays serreur. Nous sommes à la page 219.
J'avais 6 ans et sur le chemin des champs de mille, je m'agrippais à sa main rugueuse comme on s'accroche à une rampe de fer forgé. J'avais 6 ans et je n'enviais aucune princesse de conte de fées, puisqu'il avait fait de son cœur mon trône et me racontait en permanence la fabuleuse histoire des Gailloirs. J'avais 6 ans, j'ignorais qu'il pouvait avoir des tourments, puisqu'il était l'Hercule qui me soulevait d'une main et trouvait une solution à tout ce qui me semblait impossible. À ses côtés, le monde pouvait s'écrouler. J'aurais pris cela pour des secousses d'un délectable jeu de trampoline. D'un naturel placide, ses yeux posaient sur moi une ouate de sérénité qui apaisait toutes mes craintes. « Une Gailloire ne doit jamais avoir peur », me disait-il, taquin. Et pour lui plaire, je lui soutenais que je n'aurais même pas eu peur devant un lion, alors que je l'appelais au secours à la simple vue d'une souris. Il dédramatisait tout. Et lorsqu'un élément extérieur venait perturber le bain de quiétude dans lequel il s'efforçait de maintenir les siens, il disait toujours, en quelques octaves mesurées, « C'est la vie ». J'avais 6 ans et 2 grosses nattes qui dessinaient sur ma tête une allée où couraient le beurre de karité et les points d'interrogation. Alors, un jour, je lui ai rétorqué, espiègle, sans rien comprendre de mes propres mots. « c'est la vie, mais c'est quoi la vie ?» Il avait ri aux larmes, puis me passant la main sur la tête, il m'avait murmuré comme une confidence. « La vie, c'est apprendre à avoir le pied marin. »
Quelle belle définition de la vie, Fatou Diome. Est-ce que maintenant, vous avez le pied marin ?
Je ne l'ai toujours pas, je pense toujours que pas. Mais j'accepte d'apprendre à avoir le pied marin. Et donc, mon grand-père m'enseignait cela certainement contre l'impatience. Et donc, il voulait me calmer pour prendre le temps d'apprendre. Et donc, je dis de tous mes grands hommes, c'était le plus grand de mes grands hommes capable de me raconter ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon. Parce qu'il m'éduquait avec cette poésie, cette manière de parler en Afrique, cette sagesse, cette douceur, cette bienveillance. Et j'ai souvent parlé de lui et je dis que la fierté, c'est un regard bienveillant qui vous redresse les épaules. Et c'était ça mon grand-père. À chaque fois que j'ai douté, à chaque fois où j'ai manqué de courage, à chaque fois que j'étais dans une telle révolte où je me disais je ne vais pas survivre à cette colère-là, et il m'attrapait toujours et il me disait « ma fille, tu sais, vivre, c'est apprendre à avoir le pied marin ».
Alors évidemment, le personnage du grand-père résonne avec celui de Santiago, hein, le personnage du vieil homme et la mère d'Hemingway.
Oui.
Au départ, vous ne le saviez pas, et quand vous vous en êtes rendu compte, quand vous avez lu le livre d'Hemingway, ça a été une révélation incroyable.
Une révélation, parce que j'étais au village, et je vivais tout ça avec mon grand-père, et donc c'est la pêche. Vous savez, quand on est petit, les enfants, on pense toujours que notre village ou notre ville, c'est le centre du monde, quoi. Et donc les pêcheurs, je pensais que c'était que chez moi, dans mon coin, parce qu'on avait la mer, les bras de mer à côté. Et après, quand j'étais au collège, j'ai lu « Le vieil homme et la mer ». Je n'avais pas compris du tout. Évidemment, j'étais trop jeune. Et au lycée, j'ai relu. Et dans cette tranquillité où je commençais à grandir, où j'avais la nostalgie de mon village natal, puisque j'étais au lycée de Mbadiobambour, de relire ce texte-là, j'avais l'impression de voir mon grand-père à chaque page. On me parlait d'un pêcheur, c'était lui. On me parlait d'un combat face aux éléments, c'était lui. On me parlait du courage du marin, c'était lui. On me parlait de ce Diego qui est taiseux, c'était lui. Et mon grand-père, je vous garantis que je ne suis pas la seule à lui tresser des lauriers. Vous allez à Niodior, les gens se souviennent encore de lui. C'était une figure locale, mais avec un calme et puis toujours ce sourire qui le devançait partout.
Voilà, donc hommage à votre grand-père, hommage à Hemingway aussi, dont vous dites qu'il vous a appris le courage, la volonté, l'abnégation, la dignité, la condition de votre grand-père, l'héroïsme quotidien qui commence tout simplement par risquer sa vie pour se nourrir soi-même et nourrir sa famille, évidemment. Oui. Vous parlez du livre d'Hemingway comme d'un livre talisman, une sorte de vade-mecum.
Oui, parce qu'il m'a appris l'universalité de la littérature. Donc je sais que Goethe a écrit sur... la Weltliteratur, une littérature monde qui tient compte de notre destin collectif en tant qu'humain. Donc oui, ça, en étudiant l'esthétique, la théorie littéraire, j'ai étudié tout ça. Par contre, là, avec la création artistique elle-même de Hemingway, c'était concret. J'ai pu appliquer à sa littérature une figure affective, émotionnelle, familiale. Donc, ça m'a appris concrètement l'universalité de la littérature. C'est-à-dire qu'on parle de l'être humain. Où que l'on soit, qui que l'on soit, quand on parle de littérature, les personnages-là, quelqu'un au bout du monde peut s'identifier ou reconnaître les siens.
Et vous ajoutez, la carte d'identité et le taux de mélanine d'Hemingway, je m'en fiche.
Oui.
Quand on me parle de l'identité de l'écrivain, foutaise.
Foutaise, oui. Et je dis, lire un écrivain par et pour ses origines, c'est une hérésie littéraire. C'est-à-dire que les réflexions, la philosophie, cette condition humaine que nous partageons, c'est de cela que les écrivains parlent. Vous lisez Dostoïevski, vous n'avez pas besoin de connaître la Russie pour comprendre le tourment de Catherine Grouchenka dans Les Frères Karamazov. Donc vous lisez l'œuvre noire de Yourcenar, vous voyez la modestie, l'humilité d'un homme qui doit se confronter à lui-même pour grandir sa philosophie et se développer mentalement. Ce développement mental, c'est ce à quoi l'humain est confronté partout dans le monde.
Est-ce à dire, Fatou Diome, qu'au-delà de la question de l'écrivain, la question de l'identité a pris trop de place dans le débat public aujourd'hui en France? On parle que de,
oui,
ça, de l'identité aujourd'hui.
Oui, je trouve que c'est presque une espèce de comment on appelle ça? C'est un obstacle sur le passage des artistes. Donc j'ai l'impression d'être sommé de me définir en permanence. Je n'ai pas besoin de me définir. C'est-à-dire que j'écris, et quand j'écris, je parle des choses qui sont constitutives de ma vie. Donc j'écris, et quand j'écris, les cultures qui font ce que je suis, c'est un alliage. Je n'ai pas besoin de dire « Ah mais je suis française, je suis sénégalaise ». C'est évident. J'ai vécu la moitié de ma vie au Sénégal, la moitié de ma vie en France. Comment pourrais-je être imperméable à la culture française? Ne pas la revendiquer, c'est même un signe de mauvaise foi. Donc elle fait partie de moi, et c'est ça pour moi la littérature, c'est additionner mes humanités multiples qui tiennent dans ce même univers que nous partageons.
Merci beaucoup Fatou Diome. De quoi aimer vivre, le livre est paru chez Albin Michel, un livre que nos auditeurs vont pouvoir gagner en répondant à la question suivante à partir de la page Facebook de l'émission, en message privé bien sûr. À quel vêtement Fatou Diome donne-t-elle la parole dans son recueil? Nous attendons vos bonnes réponses, merci encore.
Merci beaucoup.
Et bonjour à vous Alain Pilot.
Bonjour Jean-François et Nanganef Fatou Diome.
Many nights I spend waiting, and now here comes that feeling again. Many nights I spend in vain.
Théo Charaf, In Vain, extrait l'un de l'album qui porte tout simplement son nom.
Mais qui a failli s'intituler Jean-François Nightbird. Pour quelle raison avoir opté finalement pour un disque éponyme, Théo ?
C'est plus authentique, c'est plus sincère, je peux pas tricher. Les morceaux qui sont sur cet album, ce sont des morceaux qui me mettent vraiment à nu, tant dans les paroles que dans le côté minimaliste de la musique. C'est plus logique qu'il porte mon nom plutôt qu'un énième nom à assumer sans en être certain. Je trouve ça plus logique. Puis en plus de ça, il y a un côté un peu académique presque, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait quelque chose de similaire en démarrant leur carrière, soit solo ou non. Ils ont appelé leur premier album de manière éponyme. Donc ça me paraissait cohérent.
Quelle histoire avec cet opus et sa voix qui, je n'en doute pas, charmera Fatou Diome. Théo Charaf souhaitait-il raconter?
C'est une bonne question, je n'y ai pas vraiment réfléchi. À vrai dire, je l'ai écrit de manière très égoïste. Je pensais pas en faire quoi que ce soit. J'avais mes groupes de punk à côté, ça me suffisait. Ça, c'était ma partie un peu personnelle pour me décharger la tête. Qu'est-ce que je veux transmettre? Je sais pas exactement si ça peut servir à quelqu'un pour l'affilier à sa propre histoire et sublimer sa situation personnelle. J'en serais vraiment très heureux. Ça doit être à peu près tout.
See the man coming home. Watch him walking all alone. He was the last of his kind. He left everything behind. Became a man as he was falling down the sky.
See the man. See the man sur RFI dans VMDN et la voix de Théo Charaf.
Qui reprend quatre compositions, non pas de Leonard Cohen ou de David Bowie, mais une de Bob Dylan, deux de Skip James et une de Steve Van Zandt. Pourquoi avoir voulu se les approprier ?
J'ai pas voulu me les approprier, à vrai dire. J'ai voulu marcher au plus près dans leurs pas, enfin, tout simplement parce que c'est une... Surtout, je parle pour Skip James dans un premier temps. C'est quelque chose qui m'a tellement bouleversé, que j'ai trouvé tellement pur et authentique que c'était forcé d'aller dans cette direction. Ça pouvait pas être faux, en fait. J'estime... Dans l'art, le plus important, c'est la sincérité, peu importe la forme, c'est l'intention qui prime. Et ces gens-là l'avaient bien compris, même s'ils ont des techniques complètement incroyables. Elles restent assez personnelles et assez, j'ai envie de dire casse-gueule, je sais pas si je peux, mais elles sont un peu casse-gueule. Et c'est ce qui donne tout le charme, en fait. Elles sont pas parfaites, c'est pas de la technique et de la technique, c'est l'intention qui prime. Et donc, c'était tellement sincère que j'ai trouvé ça logique et naturel de m'orienter vers ça également. Et d'essayer de faire pareil, c'était un bon moyen de s'orienter vers ça.
Hard times here and everywhere you go. Time is harder than ever been before. People are drifting from door to door. You can't find no heaven, I don't care where they go.
Time Killing Floor Blues de Skip James par Théo Charaf. Alain.
Théo, Jean-François, qui à ses débuts a pris des cours dans une MJC, une maison des jeunes et de la culture, avec un professeur qui devait avoir juste 3 ou 4 cours de plus que lui. Qu'en garde-t-il ?
Vous êtes bien renseigné. Hein. J'en garde un très très bon souvenir, puisque c'est cette personne, Pierre, que je salue d'ailleurs, qui, malgré son niveau, m'a donné le goût de la musique, qui m'a donné toutes les bases, qui m'a donné les accords de base, et puis juste l'envie de le faire, en fait, vraiment. Donc j'en garde un très très bon souvenir.
Théo Charaf, qui a grandi avec l'esprit punk, s'est forgé et a pu s'affirmer en tant qu'individu à travers cette musique. Quelle est sa définition du punk ?
Très certainement, ce n'est pas porter une crête et boire de la bière et agir comme en demeuré. Ça en fait partie. Mais ça ne se résume pas à ça. Une seule phrase, ce serait pas possible. C'est d'abord être quelqu'un d'altruiste, j'imagine, de s'éclairer, s'accroître personnellement, en fait. C'est un mot que j'utilise beaucoup. Et c'est en tout cas ce que le punk m'a permis de faire. C'est de devenir ce qui je suis aujourd'hui et de motiver à l'être, en fait, plutôt que de me laisser aller. Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup dans le punk, en anglais surtout, c'est DIY, do it yourself, fais-le toi-même. C'est quelque chose qui est très utile pour beaucoup d'entre nous, je pense.
I'm a vampire. My skin burns when the sun rises. I could get higher. It wouldn't be wise.
Vampire, Théo Charaf, son album est sorti chez Vita Records, Danger House, Skylab et Baco Distribution. Merci Alain, merci aussi à Julien Fernando, à vos côtés dans le Pays Basque, là-bas, chez France Bleu, et qui nous a permis de réaliser ce direct avec vous. Dans un instant, le journal sur RFI, on se retrouve demain avec Mélodie Sizinski. Elle travaille comme storyboardeuse pour le studio Pixar en Californie, et elle publie sa première BD, La Révolution des Damnés, aux éditions Robinson, avec une petite touche de Dostoïevski d'ailleurs. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection du mois.